Chapitre 52. Eugénie déploie des trésors de bonne volonté associés à des périphrases sans fin pour complimenter Annie sur sa nouvelle teinture de cheveux, soi-disant effet naturel, dont elle est si fière. Impossible de lui raconter qu'enfant, elle avait un chien à poils longs qui avait exactement la même couleur lorsqu'il se roulait dans une flaque de boue. La coiffeuse conserve cependant deux avantages sur l'animal en question. Elle sent bon et, jusqu'à présent, elle n'a jamais bouffé aucun coussin. La gardienne s'interrompt soudain et lève le nez comme un suricate ayant flairé une menace. « Qu'est-ce qui sent le brûlé comme ça ?»«
J'en sais rien, » réplique Annie, qui préférait la célébration de sa coiffure. « Ça puait déjà le plastique fondu lorsque je suis arrivée. »«
Il faut trouver d'où ça vient. On n'a vraiment pas besoin d'un incendie en plus du reste. » Truffe au vent, Eugénie se met en chasse, suivant la piste de l'âcre parfum. Elle respire, s'engage dans un couloir, renifle, oblique vers la zone technique, revient sur ses pas en courant presque. Les effluves toxiques finissent par la conduire à l'extrémité du couloir des loges, à l'entrée des artistes, où l'odeur est plus marquée. La gardienne constate aussitôt que la porte est maintenue entrebâillée par une cale qui l'empêche de se refermer. C'est louche. Eugénie pousse le battant avec prudence et découvre Victor en compagnie d'Olivier devant un brasero improvisé dont le feu dégage une épouvantable fumée noire. À côté d'eux, perché sur une caisse, Karim brandit un extincteur en tenant le foyer en joue, dans une attitude de dieu grec prêt à répandre sa foudre sur le bas-peuple.
« Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous en fumez tout le théâtre !»
Elle s'approche du bidon dans lequel les flammes consument une matière informe. Des cloques se forment avant d'éclater.
« On élimine l'épreuve !» déclare Victor.
« L'épreuve de quoi ?»«
Les pulls, les pantalons. D'ailleurs, regarde comment ça brûle. Ce n'est pas de la laine, c'est du synthétique. »«
C'est pour ça que ça grattait !» commente Olivier. « C'était pas naturel !»
Victor renchérit.
« Un vrai scandale! L'étiquette était mensongère. Valait mieux tout détruire. »
Eugénie regarde alternativement les deux hommes.
« Non mais franchement, qu'est-ce que vous redoutiez? Qu'on relève votre ADN sur les doublures? On n'est pas dans une série américaine. »«
Mieux vaut être prudent, » insiste son mari. « Martial est à l'hôpital et il y aura certainement une enquête. »
« Ne me dites pas que vous avez aussi détruit les masques. Ils provenaient d'un spectacle pour enfants. »
Olivier ironise.
Il ne risquait pas d'avoir servi pour Hamlet. Quoique, tu imagines le cheval tenant une pomme au bout de son sabot? Paître ou ne pas paître?
Victor secoue la tête.
C'est une chèvre, ton cheval. Il hennirait plutôt itre ou ne pas itre. Là est le canasson.
Les garçons se marrent. Eugénie est écarlate au bord de l'explosion.
« Je vous préviens, si vous avez détruit les masques... »«
Ne t'énerve pas, ils sont intacts, » réplique Victor. « Par contre, on les a cachés là où même le plus fin des limiers ne pourra jamais les trouver. »
Le clin d'œil qu'échange le régisseur et le machiniste n'échappe pas à la gardienne.
« Qu'entendez-vous par « là où on ne pourra jamais les trouver » ?»
Le mari rétorque.
« Il vaut mieux que tu l'ignores, pour ta propre sécurité. »
J'espère que tu n'as pas fait comme avec les cadeaux de Noël des enfants quand ils étaient petits. Là aussi, personne ne risquait de les trouver.
Karim semble intéressé. Olivier hausse un sourcil.
Qu'avait-il fait? Juste pour savoir.
À l'époque, pour éviter le chômage entre deux emplois, ce monsieur ici présent avait trouvé un job dans une entreprise de pompes funèbres.
Il fallait bien que je gagne notre croûte, se défend Victor.
La question n'est pas là. Pour être certain que les petits ne tombent pas sur leurs cadeaux avant la bonne date, ils n'avaient rien trouvé de mieux que de les planquer dans un cercueil. Mais quelle idée débile quand j'y pense. Heureusement qu'on n'était pas superstitieux.
Au moins, ils ne pouvaient pas les débusquer.
Mais il y a eu un enterrement et les croque-morts ont cru qu'il s'agissait d'offrandes faites au défunt par ses proches pour son dernier voyage.
Victor se souvient mal à l'aise.
Il y en avait des paquets. Ils ont dû avoir du mal à caser le macabé.
Résultat, les joujoux de mes gamins ont été enterrés on ne sait même pas où, ni avec qui.
Olivier sourit.
La tombe du Jojo inconnu, trop classe.
Rigole. On a été obligés de racheter ce qu'on pouvait, mais on n'avait pas vraiment les moyens. Tu te rends compte? Le Noël des petits, inhumé avec un mort.
Victor est contrarié. Même de nombreuses années après cette regrettable bévue, il s'en veut encore. Karim n'ose rien dire, mais son regard fuyant en dit long sur sa perplexité. Olivier se mord les lèvres pour ne pas accabler son comparse. Il murmure rêveur.
« Donc, quelque part dans un cimetière, des jouets sont ensevelis pour l'éternité. »
« Ils vont être contents, les archéologues, » s'indigne Eugénie. « Ils pourront jouer à la dinette ou déguiser le bébé poney avec tous ses accessoires, ou même s'éclater avec la base des agents secrets, effets sonores compris, même si les piles seront aussi mortes que le bonhomme dans la boîte. »
Une bouffée de fumée nauséabonde monte jusqu'à elle. Elle se protège aussitôt avec son bras en toussant. Victor profite de cette diversion inespérée pour changer de sujet.
« Dis-moi, chérie, pour revenir à plus sérieux, puisqu'on est devant l'entrée des artistes, est-ce toi qui, tôt ce matin, aurais oublié de la refermer correctement ?»«
Bien sûr que non. De toute façon, je ne passe jamais par là. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ?»
Olivier intervient.
« En arrivant, j'ai trouvé la porte repoussée, mais pas à fond. Pourtant, il n'y avait personne d'autre que vous dans le théâtre. »
Eugénie fait immédiatement le rapprochement avec les bruits suspects qu'elle a entendus dans les combles l'autre nuit. Elle interroge.
« Quelqu'un aurait-il pu s'introduire dans le bâtiment ?»«
Possible, » répond Olivier. « D'autant qu'elle n'a pas pu s'ouvrir toute seule. Vous faites bien vos rondes de vérification tous les soirs ?»
Victor confirme et Eugénie précise.
« Hier soir, la porte était parfaitement close, je suis catégorique. »
Un frisson s'empare de la gardienne. Elle ne voudrait surtout pas tomber sur un intrus lors de ses balades nocturnes. Remarquant son trouble, Olivier propose.
« T'en fais pas, j'ai déjà réfléchi. On peut facilement installer un second verrou. Plus personne ne pourra entrer de l'extérieur, même s'il a un double de la clé. Ça devrait éliminer tout risque. »
La porte en question s'ouvre. C'est Annie qui débarque.
« Génial, un barbecue !»
Mais en respirant les volutes de fumée noire, son enthousiasme retombe.
« Il n'est pas net, votre feu !» constate-t-elle avec une grimace. « Si on met des saucisses là-dessus, elles vont sentir le vieux pneu !»
Karim se met à rire, pour ça et pour tout ce qu'il a entendu avant.
« Eugénie, c'est toi que je cherche !» annonce la coiffeuse. « Laura vient d'arriver. Ce n'est pas la grande forme. Elle a demandé où tu étais. Je me suis dit qu'il valait mieux te prévenir. »
« J'arrive. »